Voilà, on va commencer donc tout de suite avec Philippe Corcuff qui donc est en grève de la faim depuis mercredi. Il est en grève de la faim au 184 rue du Guesclin, c'est avant le tribunal administratif de Lyon. Il est venu faire cette grève de la faim pour soutenir Roland Veuillet. Roland Veuillet, on en a parlé régulièrement ces dernières semaines. Roland est d'ailleurs venu il y a 2-3 semaines dans notre émission faire une interview pour expliquer les raisons de cette grève de la faim. Donc on va maintenant passer la parole à Philippe qui va nous expliquer un petit peu pourquoi il a choisi donc également cette action pour soutenir Roland. Quelles sont toutes ses raisons?
Oui, bonsoir. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais déjà soutenu Roland lors de sa première grève de la faim en 2004 à Paris. Et je m'étais un peu impliqué dans le soutien à ce moment-là. Donc c'est là que j'avais développé des liens plus personnels. Et il avait arrêté la dernière fois sur une promesse d'ailleurs qui s'est révélée illusoire d'une médiation au 39e jour. Et contrairement à la dernière grève de la faim, le ministère de l'Éducation nationale fait la sourde oreille, ne propose aucune négociation, alors qu'elle avait proposé un peu après le 30e jour des négociations la première fois. Et là, on allait dépasser les 39e jours symboliques de la dernière fois sans qu'il y ait aucune négociation. Un mur du silence. Donc, j'ai décidé de symboliquement de rentrer en grève de la faim ce 39e jour pour une semaine, parce que j'ai des moyens limités. Je n'ai pas l'énergie ou la résistance de Roland par rapport à ce type d'action, mais il m'a semblé que c'était important de marquer une solidarité, alors que tant du côté des médias dominants que du côté du ministère, la lutte de Roland a peu d'écho pour l'instant, alors que on entre dans une période assez grave du point de vue de la santé, et les grèves de la faim qui durent au-delà de 40 jours sont assez rares finalement.
Ouais, il faut rappeler que aujourd'hui même, donc Roland a son 43e jour de grève de la faim, étant donné qu'il a commencé le 24 décembre 2006. Rappelle-nous peut-être quelques points importants de l'affaire de Roland, que ce soit donc la sanction, ou que ce soit surtout, je pense, les avis du Conseil supérieur de la fonction publique, ou ces choses-là qui sont quand même déterminantes quand on voit que l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique a été signé par le Premier ministre.
Oui, Roland, à la suite de la grève des éducateurs en 2003, a été sanctionné arbitrairement sur une faute qu'il n'a pas commise, et il a été muté disciplinairement de Nîmes à Lyon. On suppose d'ailleurs que c'est lié à des choses antérieures, cette sanction. C'est que il avait alerté dans l'établissement, dans le conseil d'administration dont il était membre en tant que syndicaliste, et à l'extérieur, il avait alerté contre l'introduction d'un partenariat expérimental nouveau qui s'est effectué à Nîmes entre son lycée, le lycée du Haut-Dar, et le MEDEF, sous la forme de ce qui a été appelé plateforme technologique. Il a été un de ceux qui a mis en cause ça, qui était peu publicisé. Et on suppose que c'est aussi parce qu'il a contesté cet élément que, lors de la grève et à la fin de la grève, le proviseur puis le recteur ont essayé de mettre en cause son activité. Et donc il y a eu cette sanction qu'il a toujours refusée, et comme c'est un marathonien,
Je vais juste te couper, Philippe, parce que par rapport, tu disais que ce que Roland a refusé, et qui est certainement cause de la sanction qu'il a eue plus tard, c'est les accords entre le lycée et donc le MEDEF. C'est des choses qui, c'est clair, se faisaient à l'époque, étaient un petit peu quelque chose de pilote pour son établissement, mais c'est quelque chose qui est toujours aussi peu publicisé, même si maintenant les liens entre le MEDEF et l'école sont de plus en plus présent, parce qu'on a pu voir donc cette semaine qu'il y a par exemple dans l'Académie de Lyon, notre académie ici, où il y a des stages qui sont organisés entre des chefs d'établissement et le MEDEF. Si on voit la nature de l'opération telle qu'elles sont énoncées en fait dans les papiers, c'est échange entre des chefs d'entreprise, des chefs d'établissement ou des conseillers des structures d'insertion sur des thèmes d'intérêt partenarial. Et si on voit par exemple l'objectif de l'action, et c'est là que ça, c'est quelque chose qui devrait devrait faire hurler bien sûr tous les syndicalistes et toutes les personnes de l'éducation nationale, si on en parlait un petit peu plus, c'est le fait que l'objectif de l'action, c'est quand même d'impliquer les chefs d'établissement, les conseillers des structures d'insertion et les responsables d'entreprise en faveur du rapprochement entre l'école et l'entreprise. Et deuxième chose qui est quand même là encore très très grave, voire plus grave, c'est initier d'éventuels transferts de compétences. Donc on voit que à l'époque, Roland, c'était quelque chose qui se mettait tout à fait juste en place donc en 2003, et que c'est quelque chose qui maintenant, si c'était quelque chose qui était quasiment unique en France sur le lycée où il était à Nîmes, c'est quelque chose qui se fait, qui se font dans toutes les académies.
Oui, il a été précurseur pour la critique de ce type de procédé qui met en cause la logique du service public d'éducation. La sanction a été considérée par le Conseil supérieur de la fonction publique comme devant être relevée. C'est un organisme paritaire qui réunit des représentants de l'administration et des syndicats, mais qui a une fonction que consultative. Au vu du dossier, il a indiqué que la sanction ne tenait pas, mais comme c'est consultatif, le ministre n'en a pas tenu compte. Et donc Roland continue son combat. Je pense que son combat réunit des éléments à la fois qui renvoient à des dimensions individuelles et des dimensions collectives. Il y a une première dimension qui est le refus, donc avec ses accords MEDEF Éducation nationale, le refus de l'introduction du néolibéralisme dans les services publics. Ça, c'est un premier élément collectif qui n'est pas suffisamment souvent mis en évidence par rapport à la lutte de Roland. Ensuite, il y a une mise en cause du droit syndical. On a encore là, il était tout à fait dans la logique du droit de grève, et on a essayé de mettre en cause l'exercice du droit syndical, c'est l'exercice d'un droit collectif. Mais troisième élément aussi...
Je vais peut-être insister sur justement la remise en cause du droit de grève, parce que si les auditeurs sont pas au courant, je pense que c'est quand même hyper important de le rappeler, c'est que la sanction dont t'es victime, Roland, c'est par rapport à la grève, donc tu l'as dit, des éducateurs et surtout des maîtres d'internat et surveillants d'externat en 2003, en janvier-février 2003, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc en fait, Roland, qui était dans un établissement où il y avait un internat, les maîtres d'internat s'étaient déclarés grévistes. Le proviseur adjoint lui a demandé par un ordre... par téléphone, lui a demandé de remplacer ses surveillants grévistes, ses maîtres d'internat grévistes, par des élèves, donc des maîtres au pair. Roland a bien entendu refusé, tout d'abord parce qu'on ne remplace pas des grévistes, et surtout il a refusé en demandant un ordre écrit de la part du proviseur adjoint. Cet ordre écrit, il l'a jamais eu. Il faut quand même savoir ceci, il l'a jamais eu, et que malgré donc avoir jamais eu cet ordre écrit, on lui a reproché donc de ne pas avoir appliqué ce qu'on lui avait demandé, et c'est pour ça qu'il a eu cette sanction.
Et toujours dans le cadre de la remise en cause du droit syndical, on a entendu dire que donc Roland avait consulté donc son dossier à l'administration et il aurait trouvé je ne sais pas combien de dossiers à caractère syndical le concernant, ce qui est strictement illégal.
Oui, donc c'est un cas typique de discrimination syndicale. Je pense aussi que ce qui est sans doute important aussi, c'est une résistance individuelle contre... pour la défense de sa dignité personnelle, contre le refus d'être catégorisé en tant qu'individu qui a fait une faute alors qu'il n'a pas fait de faute. Il y a une résistance de la dignité individuelle qui est très importante, qui perturbe un peu aujourd'hui les organisations et les mouvements sociaux, parce qu'on ne sait pas très bien comment faire. On a l'habitude de défendre les droits collectifs et les combats collectifs, et on est insuffisamment attentif au fait que dans le mouvement altermondialiste et dans les mouvements sociaux aujourd'hui, il y a de plus en plus de façons plus individuelles de résister à des dénis de reconnaissance, à des choses qui mettent en cause sa dignité personnelle, et que la dimension de l'autonomie, de la dignité de la personne est très importante aussi pour les combats collectifs. Et le combat de Roland est justement à la croisée du combat individuel pour la reconnaissance de sa dignité et d'un combat collectif contre le néolibéralisme et pour la défense du droit syndical. Et je pense que c'est une faiblesse, et sans doute ça explique le soutien pour l'instant modéré de toutes les organisations syndicales, politiques, associatives de gauche dans ce combat. C'est qu'elles ont peu intégré jusqu'à présent cette dimension libertaire de la défense de l'individualité contre l'arbitraire à la fois de l'administration, de la bureaucratie, et contre le pouvoir du marché. D'ailleurs, les organisations habituellement qui ont maintenant pris l'habitude de lutter contre le néolibéralisme et contre le marché oublient que, en lien souvent d'ailleurs avec le marché, mais parfois de manière séparée, la bureaucratie impose aussi un arbitraire, une domination, une oppression, et qu'il ne faut pas se contenter de défendre les services publics contre le néolibéralisme et la marchandisation, mais il faut sans doute défendre d'autres services publics, et pas ceux qui justement écrasent l'individualité à la fois des salariés qui y travaillent, mais aussi des usagers.
Ouais, je pense que nos auditeurs ont aussi l'habitude d'un discours un petit peu équivalent, étant donné que on en a parlé, par exemple, quand c'était quand on a parlé de la Poste, quand on parle de l'éducation, quand on parle d'EDF, on veut bien rappeler, nous on rappelle tout le temps, et on aimerait que ce soit rappelé aussi plus souvent, peut-être aussi par les organisations syndicales, quand il y a eu par exemple des grèves à Marseille au niveau de la RTM, c'est que les services publics sont quand même au départ quelque chose qui doivent donc servir à tout le monde et à l'ensemble de la population, et particulièrement aux classes populaires qui ont le plus de difficultés. Donc il est important de montrer à chaque fois que ces luttes pour un service public, c'était par exemple le cas à la RTM, que ça a été montré, mais peut-être à notre avis ça n'avait pas été suffisamment, de montrer que le risque qu'il y avait derrière, ça allait être une augmentation des tarifs, une augmentation donc de tout ce contrôle qu'il peut y avoir derrière. C'est exactement ce qui s'est passé à Marseille avec des augmentations des prix du billet qui sont passés de 1,50 à 2,10 €, des choses comme ceci qui font que derrière les services publics il y a quelque chose qui est pour le bien de tous.
Et puis je voudrais ajouter aussi que par rapport à ma propre implication, c'est que je suis universitaire, donc je suis membre de l'éducation nationale, je suis maître de conférence à Sciences Po à Lyon, et je pense que c'est important qu'une catégorie qui est plus privilégiée dans l'éducation nationale comme moi se sente solidaire de ceux qui sont le plus soumis à la répression, qui sont le moins protégés. Et c'est quelque chose d'inhabituel chez les universitaires, mais je pense que c'est un élément important. C'est-à-dire que quand on combat, il faut combattre aussi dans sa propre institution. Il faut combattre ailleurs, à l'extérieur aussi, sa propre institution. Je me rappelle, en octobre 2002, dans le cadre d'une liaison particulière entre Attaque Rhône et Attaque Tunisie, j'étais invité comme universitaire à un colloque de sociologie en Tunisie, et j'avais commencé une grève de la faim avec un altermondialiste tunisien qui était réprimé. Et puis j'ai été, au bout de 3 jours, arrêté, expulsé par la police tunisienne. Et à l'époque, quand j'étais revenu en France, on m'a dit que je cherchais des formes de solidarité exotique, extérieure, etc., et qu'il fallait mieux que je regarde aussi dans mon institution. Je pense que il y avait quelque chose d'important aussi, c'est qu'il faut savoir avoir une solidarité vis-à-vis de lutte internationale et ça extérieure. Mais là où on travaille, là où on vit, il y a des formes d'arbitraire, il y a des formes d'oppression, il y a des choses inacceptables, il y a des choses injustes, et donc il faut aussi pouvoir avoir une solidarité, particulièrement quand on est dans une situation, disons, plus protégée, comme le statut d'universitaire.
Ouais, d'ailleurs, ça va très bien aussi, ça illustre très bien le cas de Roland, parce que on rappelle donc la sanction qu'il avait eue, c'était donc la lutte des maîtres d'internat surveillants d'externat, qui était donc le statut de surveillant à l'époque en 2003, qui était un statut qui était relativement, on va dire, privilégié par rapport à ce qu'on a maintenant, étant donné que c'était un statut qui recrutait des personnels sur des critères sociaux, qui étaient en gros d'aider des jeunes des classes populaires à pouvoir poursuivre leurs études. C'était un statut où le plein temps était de 28 heures, ce qui permettait donc de poursuivre correctement ses études avec un salaire tout à fait correct. Donc Roland avait soutenu, lui, très fortement d'ailleurs cette grève à cette époque, étant donné qu'il était lui-même en grève. D'ailleurs, il était en grève, mais le jour justement où il était sanctionné, c'était ce qui était noté justement par le commissaire du gouvernement à la cour d'appel administrative, c'est que Roland, malgré tout, en étant en grève, il avait fait preuve de professionnalisme, étant donné qu'il était présent sur son établissement pour assurer aussi la sécurité des élèves, et que on voit que la lutte de l'époque était une lutte juste, le combat de Roland était juste, parce qu'on voit maintenant que le statut de maître d'internat surveillant d'externat a quasiment disparu totalement. Il reste peut-être quelques personnes en France qui sont sous ce statut-là, mais à la place, si ce statut a disparu, c'est que les personnes qui font ce travail-là n'ont pas disparu. Par contre, leurs contrats ont été modifiés. On a eu les assistants d'éducation, on a maintenant donc des EVS, donc qui sont embauchés soit en CAV, soit en CAE, et que tous ces statuts-là sont des statuts qui sont ultra précaires et qui sont ultra défavorables si on compare par exemple au statut de maître d'internat et surveillant d'externat. Étant donné que maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que le temps plein donc d'un maître d'internat et d'un surveillant d'externat était de 28 heures, maintenant le mi-temps d'un EVS est de 26 heures et il touche 590 €, alors qu'à l'époque c'était 28 heures qui étaient payées à peu près 950 ou 1 000 €. Donc on voit qu'il y avait quelque chose qui, justement, la lutte de Roland, c'était justement de montrer que lui, en tant que CPE, il avait, c'est-à-dire qu'il avait un statut qui était plus privilégié, étant donné qu'il était titulaire, qu'il était enseignant, il avait soutenu, comme d'autres l'ont fait à l'époque et qui avaient... c'était tout à fait justifié, avait soutenu cette lutte-là qui était non seulement pour le respect et puis aussi la dignité des personnes donc qui faisaient ce travail-là, parce que quand on voit des personnes qui travaillent pour 590 euros pour 26 heures, quand on voit qu'ils ont des trajets à faire ou des choses comme ceci, on voit que c'est un salaire de misère. Et également, ce qui est aussi intéressant dans le combat qui avait été mené à cette époque, c'était par rapport à ce service public d'éducation, à cette qualité de service public, parce que les personnels qui donc étaient maîtres d'internat, surveillants d'externat, étaient des personnes qui restaient pendant 2, 3, 4 ans, le temps qu'ils aient fini justement leurs études et qui après gagnent la vie professionnelle. C'est des personnes qui restaient et qui étaient souvent impliquées dans l'établissement parce qu'ils étaient là plusieurs années. Alors que maintenant, on voit, c'est justement dans l'appel justement de l'intersyndicale d'éducation de cette semaine pour le 8 février, on voit qu'il y a un turnover ultra important de ces EVS parce que les personnels ont un tel statut et un tel salaire, que très souvent les personnes jettent l'éponge ou encore sont sanctionnées. C'est par exemple le cas de Didier.
Ouais, et puis aussi un autre point, c'est que ça renforce aussi donc la hiérarchie dans les établissements, parce que donc avec ce type de contrat, ça transforme aussi donc les principaux comme des véritables des employeurs tout simplement, avec pouvoir de recrutement, et les CPE, on va dire pratiquement un directeur des ressources humaines, ce qui change considérablement les rapports sociaux au sein des établissements. Et oui, et puis évidemment avec toute la précarité qui incombe donc à ces contrats, et avec des cas complètement absurdes, notamment dans le nord de la France, où quand même 200 personnes embauchées sous ce type de contrat se sont retrouvées sur le carreau, puisque donc il y avait un conflit entre le ministre Jean-Louis Borloo et le président du Conseil général du Nord, je ne sais plus son nom, et donc ces personnes se sont retrouvées donc sans emploi alors qu'ils avaient signé un contrat de travail, et donc on voit que ces contrats ne sont pas du tout au point et mettent les gens dans une misère la plus totale.
Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Philippe, sur ça, sur la lutte de Roland.
Je pense qu'il est important, maintenant on est au 43e jour de grève de la faim, il a perdu 17 kilos, c'est-à-dire à peu près 20% de son poids initial, donc ça veut dire qu'il rentre dans une zone extrêmement dangereuse pour sa santé, et que la mobilisation est extrêmement importante, encore plus importante, parce que là, on rentre dans une situation extrêmement dangereuse pour sa santé. Il est très déterminé, il a beaucoup de ressources, mais en fait, c'est un homme qui a plus de ressources que d'autres d'un point de vue physique, mais qui en même temps a des limites comme tout le monde. Il est maintenant affaibli, et donc il est important que on se rende compte de l'importance de cette mobilisation.
Et justement, pour poursuivre cette mobilisation, il y a donc juste informé qu'il y a des actions qui se sont faites à Lyon cette semaine, donc mercredi, hier également. Mais il y en a également ailleurs en France, étant donné qu'il y en a eu à Poitiers, il y en a eu à Marseille, avec 30 personnes qui sont couchées devant l'inspection académique. Il y en a également dans le Gard, voilà. Et pour dire aussi que toutes les personnes, qu'ils soient dans l'éducation nationale ou non, donc Philippe l'a dit, c'est pas un combat qui reste cloisonné à l'éducation nationale, étant donné que c'est un combat pour le droit de grève, pour la dignité humaine, toutes ces choses-là. Donc toutes les personnes qui le souhaitent peuvent signer la pétition donc de soutien à Roland, qui est signable en ligne sur le site Roland Veuillet où va-t-on. Vous tapez Roland Veuillet dans Google et vous tombez dessus. Et également pour tous ceux qui sont présents à Lyon, le comité de soutien de Roland Veuillet appelle à poursuivre la manif de jeudi. C'est-à-dire jeudi 8 février, la manif partira à 11h de la place Jean Massé pour rejoindre à 12h rejoindre la préfecture. À la suite de cette manif, donc le comité de soutien appelle toutes les personnes à poursuivre ensuite la manifestation pour rejoindre le camion de Roland Veuillet qui se trouve au 184 rue du Guesclin.